C'est le temps qui fait la panique.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Okapi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est le temps qui fait la panique, l'émission qui analyse l'impact des mots, des discours et du langage sur notre société. Je m'appelle Poli Mouzalia, à mes côtés Babel Mpongo. Dans cet épisode, on s'intéresse à une rhétorique omniprésente ces derniers temps, celle de la condamnation et des sanctions dans le cadre de la crise qui déchire l'Est de la République démocratique du Congo. Un sujet brûlant, n'est-ce pas, Babel ?
Effectivement, Poli, depuis que la guerre dans l'Est du pays a pris de l'ampleur, les médias sont saturés de messages alarmants. À chaque jour, des appels à la condamnation et aux sanctions se multiplient contre le Rwanda, pays qui soutient les rebelles du M23. Et pourtant, malgré ce chapelet de condamnations et ce menace de sanctions, les combats continuent de faire rage dans la région.
Ce langage de fermeté, Babel, suscitait autrefois une crainte immédiate, provoquant un arrêt des affrontements. Mais de nos jours, on entend condamnation ici, sanction par là. Mais sur le terrain, l'effet escompté semble de moins en moins au rendez-vous. Les offensives se poursuivent, un peu comme si ce langage avait perdu de son pouvoir de dissuasion.
Tout à fait, Poli. Cette rhétorique semble presque ritualisée, vidée de sa substance. Conseil de sécurité de l'ONU, Cour pénale internationale, Union africaine, SADC et autres, toutes ces organisations internationales emploient ce vocabulaire. Et pourtant, sur le terrain, la situation semble se détériorer au jour le jour.
Et ce n'est pas une situation exclusivement congolaise. Regardons un peu le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Malgré les sanctions massives prises contre Moscou, la guerre continue de faire rage depuis plus de 2 ans. Ce qui nous amène à nous poser cette question. Que restait-il finalement du pouvoir des mots en diplomatie quand ils ne font plus peur? Et surtout, quelles alternatives face à ce langage de moins en moins impactant, Babel?
Pour en parler, nous recevons 2 invités. Le premier est Itiel Batoumikié. Il est analyste politique à Ebouteli, un institut congolais consacré à la recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Nous disons bonjour à Itiel Batoumikié et merci d'avoir accepté de nous accompagner dans cet échange.
Bonjour et bonjour à vous et à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Notre second invité est Lucien Ramazani. Il est philosophe et doctorant en sciences politiques à l'Université catholique de Louvain. Bonjour Lucien Ramazani et merci d'être là.
Bonjour Poli Mouzalia, bonjour Babel Mpongo et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Alors avant de plonger au cœur de notre sujet, écoutons un premier extrait de notre feuilleton radiophonique. Cette scène se déroule dans un milieu universitaire avec des étudiants. On va voir comment ils utilisent et abusent d'un jargon diplomatique teinté de menaces de sanctions sans vraiment obtenir les résultats recherchés. On écoute.
Alors, chers étudiants,
qu'est-ce qu'il y a encore?
Je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est pour vous rassurer, vous assurer que le comité d'arbitrage de l'université est préoccupé par la situation qui prévaut au campus.
Vraiment?
Nous condamnons avec la dernière énergie l'insécurité qui règne au campus suite à ces fameux groupes d'étudiants qui volent et escroquent systématiquement.
Voilà, ça mérite d'être condamné.
Je vous jure qu'au niveau de l'université, des mesures sévères seront prises. Et tous ceux qui sont derrière ces actes ignobles peuvent maintenant se rassurer que l'alarme a sonné pour qu'un châtiment gravissime leur soit infligé. À partir du moment où je vous parle, des mesures sont en cours pour renvoyer ces étudiants barbares. En plus, ils doivent rembourser avec pénalité tout ce qu'ils ont volé.
Qui surtout ça? Mais surtout ça?
Mais c'est bruit. Sauf votre respect. Ce n'est pas la première fois que vous adressez un message d'intimidation à l'endroit de ces voleurs. Mais jusque-là, qu'est-ce que vous avez fait? Dites-nous, pour Amani, ni nous j'affagne. Tout le monde sait que par la suite, ce n'est qu'une lettre morte.
Amani.
Soyez quand même reconnaissant, quand même. Soyez reconnaissant.
Non, Kitoko. Non. Amani a raison. Apparemment, l'adage qui stipule que le chien aboie et la caravane passe a été conçu pour s'appliquer dans notre campus.
Ah oui, c'est clair. Parce que tout est clair.
Jusque-là, on n'a rien fait.
Rien ne change.
S'il vous plaît, calmez-vous.
Ne fait que parler.
Les amis, calmez-vous. On s'écarte.
Le chien aboie et la caravane passe, peut-on entendre dire l'un des étudiants. Voilà une expression qui illustre bien notre sujet, Itiel Batoumike. Historiquement, en diplomatie, les menaces de sanctions étaient conçues pour faire peur afin d'obtenir un certain résultat. Alors comment expliquez-vous la progressive perte d'impact de ce type de langage, Itiel Batoumike?
Je pense que de plus en plus, les faits, l'apologie de la violence, on a l'impression que les mesures qui étaient prévues de manière non coercitive dans le chapitre 6 de la charte de l'ONU ne répondent plus, parce que ces sanctions visent à dissuader les parties en conflit avant d'en arriver au recours à la force. Aujourd'hui, on voit que malgré tous les appels lancés, ça est là pour le rétablissement de la paix, notamment les différents sommets qui ont eu lieu, que ce soit dans le cadre de l'EAC ou de la SADC, il n'y a pas le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu n'est pas effectif. Et chaque fois que les demandes de sanctions sont formulées à l'égard des personnes habilitées ou des organisations habilitées, c'est vraiment un silence qui est réservé à toutes ces demandes-là. En fait, cette attitude fait perdre au Conseil de sécurité de l'ONU particulièrement son importance et rappelle que l'organisation est devenue presque obsolète et ne joue plus son rôle. Aujourd'hui, je pense que c'est tout.
Justement, Itiel Batoumike, peut-on considérer que l'inefficacité croissante de ces menaces diplomatiques reflète finalement une crise profonde au sein du système international établi après la Seconde Guerre mondiale, un système qui semble de plus en plus remis en question aujourd'hui, Itiel Batoumike?
Évidemment, on a vu au travers plusieurs conflits à travers le monde que le Conseil de sécurité, ses résolutions, qu'elle soit contraignante ou pas, n'était plus respectée par les belligérants et que de plus en plus, c'est la raison du plus fort qui était en train de primer. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo. Les experts des Nations Unies ont eu à documenter l'implication de l'armée rwandaise aux côtés des rebelles du M23, mais jusqu'à ce stade, on n'a pas. On n'est pas allé vers une résolution contraignante. C'est toujours des réunions qui se succèdent sans que le Conseil de sécurité prenne ses responsabilités en tant que gardien de la paix et de la sécurité internationale. Cela est révélateur qu'aujourd'hui, l'Organisation des Nations Unies est dépassée par les gouvernements et je pense que ceux qui appellent à sa réforme ont raison.
Oui, notons que cela affecte non seulement les Nations Unies, mais également plusieurs autres organisations qui ont élevé la voix, par exemple en ce qui concerne la crise en RDC, pour condamner et pour demander la cessation des hostilités. Merci Itiel Batoumike pour cette première analyse. Je me tourne à présent vers vous, Lucien Ramazani. Nous voyons qu'au-delà des condamnations, les acteurs sur le terrain ne semblent pas affectés par les menaces de sanctions. D'un point de vue philosophique, est-ce que ce langage a-t-il encore une portée réelle ou est-ce que c'est devenu un simple rituel diplomatique? Monsieur Ramazani.
Oui, merci beaucoup. Mon prédécesseur a évoqué quand même quelques éléments importants. On voit qu'il y a vraiment une recrudescence d'une forme d'apologie de la violence et que ce que peuvent le mot ne le peuvent plus, les mots ne disent plus rien. Donc il n'y a aucune parole diplomatique qui soit performative et qui réalise ce qu'elle dit en disant que nous demandons que les rebelles se retirent ou que le Rwanda cesse d'assister le M23. Ces mots-là ne veulent plus rien dire. Mais je pense qu'il faut aussi les situer dans les contextes internationaux. où l'ordre mondial est chamboulé désormais. Donc, on a vu avec l'Ukraine ce qui s'est passé. Donc, on a voté des sanctions contre la Russie. Mais le modèle semble montrer ses limites et des pays à ambition expansionniste ont trouvé une parade à de tels dispositifs. Donc, ils connaissent les méandres des sanctions et en se préparant à la guerre, ils préparent comment contourner ces sanctions. Et donc, ils se préparent à naviguer entre les différentes procédures ou les différentes sanctions qui peuvent être adoptées au niveau international.
Monsieur Ramazani, malgré ces limites apparentes du langage diplomatique traditionnel, c'est-à-dire les condamnations et menaces des sanctions, est-ce que ce langage conserve encore une utilité réelle pour atténuer les conséquences des conflits et protéger les populations civiles en zone de guerre?
Le langage, il continue et il a toujours sa portée parce qu'il y a toute une procédure. Mais comme on le marquait tantôt, c'est tout le modèle qui doit être repensé. Et lorsqu'on parle des sanctions et lorsqu'on parle des guerres, il faut d'abord les situer géographiquement. Selon que la guerre est proche de l'Europe, ça fait peur. Et selon que c'est très loin, on peut prendre du temps et on peut se perdre dans des mécanismes de prise des décisions et des sanctions. Mais le langage diplomatique, il garde sa portée parce que c'est ce qui nous régit et c'est ce qui nous permet entre États de pouvoir échanger. Parce qu'il y a ces registres politiques qu'il ne faut pas oublier. Et les caractéristiques qui lui sont propres, l'évitement, un peu d'ambiguïté, et la minoration ou la dissimulation. Mais ça reste quand même un langage qui a une portée et qui peut être, qui peut avoir sa portée dissuasive face à certaines situations.
Merci Lucien Ramazani pour ces explications. Passons à présent à un deuxième extrait de notre feuilleton radiophonique, toujours avec nos amis les étudiants. On va voir cette fois-ci comment ils font face aux conséquences de ce type de langage diplomatique, hein, teinté de condamnation et de menaces. On écoute.
Chers étudiants, calmez-vous.
C'est quoi?
Nous vous appelons à la sérénité et à la confiance en notre leadership.
Oh,
soyez rassurés. Oh. Une fois de plus qu'une série de sanctions sévères existe et est opérationnelle. Bientôt, nous allons rétablir l'ordre et remettre ces bandits à leur vraie place.
Arrête tes menaces qui ne vaut rien. Arrête. Tchakabis, si je me rappelle bien, vous aviez déjà annoncé que vous alliez ouvrir un procès public et pénal contre ces groupes. Mais où est-ce qu'on en est?
C'est
mais
ça.
Mais quoi?
Où est-ce qu'on en est? On ne peut rien espérer de ce comité. Moi, j'ai d'ailleurs l'impression qu'ils se contentent juste de se frotter les lèvres en faisant des déclarations qui n'ont aucune portée.
Qu'est-ce que
ce genre de déclaration
ne sert à rien. Qu'est-ce que j'en sais?
Ça ne sert à rien parce que la situation ne change pas. Ça ne fait qu'empirer.
Ça ne fait qu'empirer.
Dernièrement, vous savez que ces voleurs se sont permis d'entrer dans ma chambre. Ils m'ont dépouillé de tous mes biens. Y compris mon argent destiné à payer les frais académiques. Parce que les gars, vous trouvez ça normal?
C'est pas normal. S'il vous plaît, prenez votre mal en patience. Attendez au moins que Mboui finisse à épingler toute la chaîne des sanctions qu'il a prévues pour mettre le train sur le rail.
Non, Kitoko. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Les amis, nous n'avons rien à foutre ici en écoutant ces soi-disant discours de menaces qui n'empêchent pas que nous continuons à être victimes.
Allons-y,
quelqu'un s'est fait attaquer. Mais allons-y voir ce qui se passe.
Qu'est-ce qui se passe là?
Ce genre de déclaration ne sert à rien parce que la situation ne cesse d'empirer, constate dépité l'un des étudiants. Alors, Itiel Batoumike, quelles conséquences observe-t-on quand les menaces et avertissements diplomatiques n'atteignent plus leurs objectifs? Cette perte d'influence du langage diplomatique ouvre-t-elle la voie à un accroissement de l'arbitraire dans les relations internationales?
Oui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui qu'un peu partout, ce n'est pas qu'en République démocratique du Congo où il y a des conflits. Il y en a au Soudan, il y en a en Ukraine, il y en a dans le Moyen-Orient. Et ça, c'est parce que aujourd'hui, le système qui a été conçu pour la guerre ne se reproduit plus à travers le monde est défaillant à ce jour. Et donc, il est important de revenir sur une réforme qui puisse replacer un organe capable de peser et d'établir la sécurité internationale. Par rapport à l'élément que vous venez de faire écouter aux auditeurs, je pense qu'il y a quelque chose d'important à retenir. C'est l'impunité qui caractérise les différentes utilisations de la force dans les relations interétatiques aujourd'hui. On voit, par exemple, que le fait qu'il n'y a pas eu de sanctions pour différents crimes qui se sont déroulés en République démocratique du Congo, cela encourage en fait que les conflits continuent à se dérouler sur le territoire congolais. Mm-hmm. Par le passé, il y a eu un répertoire de crimes qui ont été commis sur le territoire congolais et que l'ONU a documenté à travers le rapport MAPNIC, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait pour que ces crimes soient sanctionnés. Et donc, la prime qui est faite aux criminels, à ceux qui sont des acteurs de la violence, fait en sorte que le cycle de violence ne puisse pas se couper. On a vu, par exemple, que l'appel du docteur Mukwege, des prix Nobel de la paix, pour l'instauration du tribunal pénal international pour les corrompus, comme ça a été le cas, par exemple, au Rwanda après les génocides ou en ex-Yougoslavie, n'est pas suivi d'effet. L'ONU ne se mobilise pas. C'est dommage que parfois même la République démocratique du Congo n'apporte pas de soutien à ce genre de demandes qui sont faites par les prix Nobel de la paix. La Cour pénale internationale a été mise en place il y a quelques années et la République démocratique du Congo a été l'un des premiers pays à faire en sorte que la prime soit fonctionnelle et que nos citoyens ont été les premiers à être jugés par la Cour pénale internationale. Mais on voit que la dynamique de puissance internationale aujourd'hui essaie de paralyser la Cour pénale internationale lorsque, par exemple, les États-Unis, au lieu de sanctionner les criminels, ce sont plutôt les personnalités qui gèrent la Cour pénale internationale.
Merci Etiel Batoumiki. Je me tourne encore une fois vers vous, Lucien Ramazani. Lorsqu'un État victime d'agression constate l'inefficacité de réponses diplomatiques internationales, quelles peuvent être les conséquences? Cette situation peut-elle entraîner une perte de confiance vis-à-vis des institutions internationales, voire une radicalisation de l'opinion publique au sein de l'État agressé?
Il y a cette perte de confiance qui est manifeste parce que lorsqu'on considère par exemple qu'au sein de l'Union européenne, les décisions de suspension de l'aide contre le Rwanda nécessitent un consensus. Et lorsqu'on sait que le Rwanda protège les projets pétroliers à 20 milliards de dollars au Mozambique, financés par la France, on comprend pourquoi la France est réticente à adopter des sanctions contre le Rwanda. Et même au niveau des États-Unis, il y a un silence sur une condamnation et la prise des sanctions pour que cette guerre puisse s'arrêter, comme ça a été le cas dans les années passées lors de l'administration de Barack Obama. Mais si je dois ajouter aussi au niveau africain, où nous-mêmes africains nous sommes en train de contredire l'argument de l'Ubuntu, les condamnations au niveau africain, les condamnations sont tièdes ou quasi inexistantes. Parce que voilà, que l'efficacité diplomatique de Kigali empêche certains pays de pouvoir se prononcer.
Alors face à ce constat,
et donc on est dans une
Lucien Rabazani,
face à cette perte de confiance.
Oui.
Face à ce constat, on s'installe dans un contexte de cacophonie du langage diplomatique.
Oui, justement, face à ce constat, est-ce que parallèlement, on assiste à une forme de radicalisation de l'opinion publique au sein de l'État qui s'estime agressé?
Oui, si on analyse les éléments des langages de la diplomatie congolaise depuis 2 ans, on est bien dans ce cadre de radicalisation des propos au niveau diplomatique, mais aussi d'une forme de lassitude et d'une forme de laisser pour compte. Et voilà, un pays laissé pour compte qui doit se débrouiller. Si je peux paraphraser les mots de la ministre des Affaires étrangères du Congo.
Donc c'est là en train donc une radicalisation également au sein de l'opinion publique dans l'État agressé. Merci Monsieur Batoumike pour ces précisions. Pour finir, je vous invite à écouter un dernier extrait de notre sketch radiophonique, toujours avec nos amis les étudiants. Nous allons voir comment ils finissent par canaliser la frustration qu'ils ressentent face au peu d'impact de la rhétorique diplomatique de condamnation et de sanctions. On écoute.
Mon Dieu, mais il a failli se faire tuer. Mais comment ces étudiants ont pu oser s'en prendre à un innocent vraiment, soit disant qu'il fait partie du groupe de ces étudiants qui commettent des vols au campus.
C'est grave ça. Je regrette de voir que malgré les efforts que nous sommes en train de fournir pour résoudre le problème, certains étudiants n'ont pas encore compris que se faire justice ne fait qu'aggraver les choses.
Ça c'est votre façon de traiter le problème. C'est clair maintenant que les étudiants sont fatigués d'attendre de bons discours ou de prendre des sanctions qui ne sont jamais exécutées.
Exactement. Ces sanctions stériles n'effraient plus personne, car aucun de ces malfaiteurs ne s'est fait arrêter jusque-là. Normalement, quand tu menaces avec un revolver, il faut être prêt à tirer.
Mais cela ne peut en aucun cas justifier le fait qu'ils se soient pris aux innocents.
Justement, ils ont dépassé les limites.
Vraiment?
Non.
Non, mais vraiment quoi? Dites-moi, si c'était vous, que feriez-vous si vous étiez à la place des étudiants qui ont été victimes de vol et qui voient qu'il n'y a aucune mesure concrète qui est prise pour punir les coupables? Que feriez-vous?
Non, mais franchement, je crois que les victimes peuvent même être tentées de croire que le comité d'arbitrage est complice.
Oui, c'est ce que je pense aussi. Si je devais donner mon conseil, je recommanderais au comité d'arbitrage de s'assurer que le langage utilisé sera chaque fois accompagné de mesures concrètes contre ces voleurs.
Je suis d'accord avec toi, Mbouta. Sinon, il y a risque de perdre confiance dans le comité d'arbitrage, ce qui fera place à la justice populaire. Et ce n'est pas une bonne chose.
Les étudiants sont fatigués d'entendre vos bons discours et prononcer des sanctions qui ne sont jamais exécutées, soupire l'un des personnages. Alors, Itiel Batoumike, quelles approches diplomatiques innovantes pourraient éventuellement remplacer ou compléter le langage traditionnel de condamnation et de sanctions qu'on utilise dans le cadre de la diplomatie, Itiel Batoumike?
Je pense que les opinions publiques dans les pays en conflit veulent voir plus d'action, veulent voir des réactions qui mettent au cœur des organisations chargées du maintien de la paix, que ce soit au niveau régional ou au niveau mondial, une réaction rapide. Parce que le fait d'attendre souvent que il y a beaucoup de victimes et d'intervenir après en observateur de ce point, cela est de nature à exacerber les tensions et même les perceptions des populations qui vivent dans les zones en conflit. Comme vous l'avez constaté, il y a quelques semaines, à Kinshasa, il y avait des manifestations contre les ambassades occidentales parce que les populations, comme les étudiants qu'on venait d'écouter, ont l'impression que ceux qui sont censés apporter de l'appui aux victimes jouent à une certaine, avec une certaine complicité, bien que cela relève de la souveraineté du pays. Mais la solidarité internationale exige à un certain moment que l'on dépasse le discours et que l'on aille vers des actions beaucoup plus concrètes. Pourquoi pas l'intervention, parce que comme en 2012 ou 2013, la M23 a été vaincue, notamment avec l'appui de l'ONU, avec un mandat plus offensif pour la brigade d'intervention qui était opérée au niveau de la MONUSCO. Donc, plus on sera dans la léthargie, plus l'opinion publique va continuer à développer un sentiment de complicité de certains pays contre le Congo. Comme on l'a dit, il y a quelques années, à Ebouteli, on a réalisé un sondage qui montrait que dans l'opinion, il y avait une certaine perception que l'Occident n'était pas assez le Congo et qu'il fallait se retourner, par exemple, qu'il fallait se retourner vers la Russie. Donc, il faut essayer de faire en sorte que l'opinion puisse sentir le rôle des organes de maintien de la paix, que ce soit au niveau régional ou au niveau international, parce qu'il ne faut pas aussi oublier qu'il y a eu à un moment donné des manifestations contre la MONUSCO qui est censée plutôt contribuer au rétablissement de la paix et à la stabilisation en République démocratique du Congo. Ça, c'est un signe qui devrait interpeller l'ONU particulièrement.
Merci pour cette intervention. Monsieur Ramazani, en conclusion pour vous, de quelle manière les initiatives citoyennes transnationales pourraient-elles compléter ou renforcer les efforts diplomatiques jugés inefficaces et éventuellement créer des ponts là où la diplomatie traditionnelle semble avoir échoué?
Alors, il y a d'abord plusieurs difficultés à relever au niveau international. On est dans un contexte où les pays qui peuvent ou qui s'impliquaient dans l'ordre mondial ne veulent plus s'impliquer et ils veulent avoir le choix de choisir leurs pauvres, je mets entre guillemets, comme on a supprimé l'USAID, on sait ce que ça va produire au niveau de l'aide, même si pour la plupart des gens on n'est pas pour une aide perpétuelle envers les pays en voie de développement. Et donc la possibilité de pouvoir choisir les crises dans lesquelles on s'engage et les guerres dans lesquelles on veut vraiment se prononcer et remettre de l'ordre au niveau international. Donc il y a ce contexte qui va peser lourdement. Et deuxièmement, il faut qu'on se rende compte que le vieux monde de l'après-deuxième guerre mondiale disparaît et que celui qu'on doit construire, il doit combiner en même temps l'effet de la montée des extrêmes au niveau européen, mais aussi le fait que les États-Unis veulent déjouer les cartes et placer l'intérêt des États-Unis en premier lieu et ne choisir que tel ou tel autre cas qui servirait leurs intérêts.
Mais et justement,
donc, au niveau local, les initiatives locales doivent prendre en compte ce contexte international, mais aussi se rendre compte qu'au niveau intérieur comme au niveau de la RDC, il y a des responsabilités nationales qui devraient être prises depuis bien longtemps, où on a des troupes qui ne veulent plus combattre et qui fuient devant l'ennemi, devant la force de feu de l'ennemi.
Mais que pensez-vous, que pensez-vous d'initiatives, que pensez-vous d'initiatives telles que celles qu'a lancées la SENCO, donc l'Église catholique et l'Église protestante, pour essayer de donner un coup de boost aux efforts de médiation en cours, pour essayer de résoudre le conflit qui déchire l'Est de la RDC?
Oui, ces initiatives montrent que le langage diplomatique a encore sa place pour la construction de la paix dans la région des Grands Lacs. Nous risquons de périr ensemble comme des idiots, mais à partir de telles initiatives, c'est de comprendre qu'on a un destin commun que d'habiter ensemble dans la région des Grands Lacs avec des Rwandais, des Ougandais, des Burundais et des Congolais en paix, est capable de pouvoir impulser un développement au niveau régional parce que c'est la vocation du Congo. Voilà.
Voilà, c'est sur cette note d'espoir que nous concluons cette émission. Le fait est que le langage diplomatique traditionnel fait de condamnations et de menaces de sanctions semble de moins en moins efficace face aux crises qui secouent le monde et en particulier l'Est de la République démocratique du Congo, Babel.
Oui, Polly, on l'a vu, ces grandes déclarations, ces discours fermes des organisations internationales n'empêchent pas les conflits de perdurer. Et pour les populations directement touchées, ce sont des mots qui résonnent de plus en plus creux, presque comme un rituel, sans réel effet.
Mais alors, si ce langage n'intimide plus, que faire? Faut-il repenser la diplomatie, explorer d'autres pistes? C'est là tout l'enjeu, Babel, parce que derrière ces déclarations, il y a des vies brisées, des familles déplacées, des communautés entières en détresse.
La bonne nouvelle, Polly, c'est que d'autres approches sont possibles. Peut-être faut-il miser davantage sur des initiatives locales, sur l'engagement citoyen, sur des résolutions qui viennent du terrain plutôt que d'en haut.
Une chose est sûre, hein, Babel, si la diplomatie veut encore peser, elle doit se réinventer, dépasser le stade rhétorique pour privilégier des actions concrètes, mettre fin au double standard selon les intérêts des plus puissants et surtout privilégier des décisions qui impactent réellement pour ceux qui vivent dans ces conflits au quotidien.
Merci encore une fois à nos invités Itiel Batoumiki et Lucien Ramazani. Merci également à André Mongo et Polydor Basunga qui nous ont accompagnés du côté de la régie technique. Enfin, grand merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre attention et votre fidélité. l'actualité.
Vous écoutiez C'est le ton qui fait la panique, votre émission qui alerte sur les paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Ce programme hebdomadaire vous est proposé par l'ONG La Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi.
Nous vous fixons un nouveau rendez-vous vendredi prochain à 8h30 pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez ce numéro en rediffusion samedi 11h05 et 19h05 heure de Kinshasa sur les ondes de Radio Okapi ou en podcast sur www.radiokapi.net et www.abarirdc.net.
N'oubliez pas de nous envoyer vos réactions et commentaires sur nos pages Facebook et X de Radio Okapi et Abari RDC. Merci encore une fois et à très bientôt. Au revoir.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi.